a le très grand plaisir aujourd'hui d'entendre Benjamin Cabanne. Alors pour situer un peu le travail, il y a une première origine d'abord qui est la demande d'essai microélectronique. Donc on va travailler dans une industrie science-based, mais a priori peut-être un peu loin des questions de création et d'invention, mais on va voir qu'on est en fait plongé très vite dans la création et l'invention dans des univers scientifiques et techniques. Donc là, il y avait des enjeux très importants de ce point de vue-là. Ensuite, le point, peut-être parce que Benjamin ne le dira pas, on partait de questions qui étaient des questions de management et de RH. Hein. Vous verrez, ça, au démarrage, ça semble un peu modeste. Et puis progressivement, c'est monté. Benjamin a brillamment montré qu'on voyait apparaître dans ces univers très dynamiques scientifiquement des formes de relations sociales, des formes d'organisation extrêmement originales qui conduisaient à rediscuter et à inventer des notions tout à fait nouvelles. Et là, Benjamin a défendu l'idée qu'on devait parler maintenant de société proto-épistémique d'expertise, il expliquera ce que c'est. Le résultat a été pour nous scientifiquement passionnant, et il a aussi beaucoup intéressé les communautés, notamment en sciences de gestion, et donc je voulais insister sur le fait que Benjamin a brillamment remporté le prix de thèse de la FNEJ pour ses travaux, ce qui est malgré tout une reconnaissance d'une grande valeur, puisque en sciences de gestion, ça fait partie de la communauté de référence, la FNEJ. Donc, la société des sciences de gestion ont jugé que ces travaux avaient un impact important pour la discipline. Et puis l'autre surprise, c'est que là, je vous ai dit, on démarre dans le semi-conducteur, et bien progressivement, ces travaux qui semblaient quand même réclamer un contexte scientifique, industriel très particulier, progressivement, Benjamin, depuis que sa thèse est achevée, présente les résultats un peu partout, avec un succès grandissant, et donc de plus en plus de partenaires, à la fois industriels et institutionnels. L'ANRT, par exemple, qui finance les thèses CIF, se demande si, finalement, les dynamiques qu'elle voit, la façon dont travaillent les centres de recherche français, les façons dont s'organisent les rapports avec les laboratoires de recherche, on ne les comprendrait pas mieux en regardant les dynamiques que Benjamin décrit. Donc alors que ça semblait réservé à des cas très particuliers, on peut aujourd'hui se demander s'il n'y a pas une ampleur extrêmement importante au phénomène que décrit Benjamin et au processus et aux formes d'organisation, aux formes de collectif. Donc on voit là et que finalement, ce qu'on dit sur les régimes de création aurait une validité extrêmement importante. On est surpris, je dirais, des industriels qui viennent nous voir aujourd'hui pour éclairer leurs pratiques, éclairer les comportements bizarres à l'aide des cadres que Benjamin fournit. Donc merci à Benjamin de prendre le temps de nous présenter ces conquêtes intellectuelles.
Merci Pascal. Déjà aussi, je remercie Armand et Vincent de me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur ce que j'ai fait pendant ma thèse, en fait, mon projet de thèse. Et alors c'est vrai que depuis, là j'ai soutenu un peu plus d'un an, et je présente souvent ma thèse, et parfois j'avais une certaine lassitude de présenter toujours mes travaux, et je me suis rappelé que dans ma thèse, dans un annexe, alors je crois que c'est 3 ou 4, j'avais écrit une histoire de la nanoélectronique, notamment du semi-conducteur, des transistors, et du coup je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de changer un peu, et de reprendre un peu cette histoire pour commencer, pour un peu introduire, sauf que le thème c'est l'histoire de la nanoélectronique, donc du coup je vais commencer par ça. Alors, généralement, en fait, si vous tapez sur Google nanoélectronique, vous allez avoir plein d'occurrences, notamment la première sera Wikipédia. Et généralement, en fait, l'histoire qu'on vous présente, elle commence par une date et 3 personnages. Alors, la date, on est en 1947, c'est l'invention du transistor. Alors, le transistor, objet technique, surprenant, un peu difficile à comprendre, donc on va rentrer un peu dans les détails. Et puis aussi par 3 personnages. Et une organisation aussi légendaire, les Bell Labs. Donc les Bell Labs, c'est un centre de recherche dans une entreprise industrielle, donc AT&T aux États-Unis, et 9 prix Nobel hein, dans cette organisation, ce qui est assez quand même exceptionnel pour souligner. Et on vous dit, voilà, le 23, l'invention du transistor par ces 3 chercheurs, Bardeen, Shockley et Britten, qui ont reçu le prix Nobel pour cette invention en 1956. Et après, on vous explique un peu l'évolution de cette technologie. Alors du coup, en fait, le problème, si on commence l'histoire à partir de là, en fait, il y a 2 problèmes. Déjà, on a déjà l'objet technique transistor qui apparaît. On se demande, mais comment il est arrivé là? Comment on l'a inventé? Quelle est sa jeunesse, finalement? Et l'autre chose aussi, on a quand même le côté organisation. C'est-à-dire que ces chercheurs dans un labo de recherche, dans une entreprise, comment ils sont organisés pour arriver à inventer ce nouveau dispositif? Alors, si on revient un peu en arrière, même très en arrière, j'ai regardé un peu 5 personnages. Alors certains vous les connaissez et d'autres peut-être un peu moins. Alors il y en a 2 très connus, surtout en France, donc vous reconnaissez bien sûr Napoléon Ier et Victor Hugo. Et maintenant vous allez me dire, mais en fait c'est quoi la relation de ces personnages et puis la nanoélectronique? Alors en fait le premier, donc là c'est une peinture, il n'y a pas de photo, c'est Alessandro Volta, c'est un Italien. un physicien italien, d'ailleurs Volta, qui a donné son nom au volt, hein, donc l'unité de mesure de la tension, donc qui travaille sur l'électricité à l'époque. Bien sûr, Napoléon Ier, Victor Hugo, vous avez Alexandre Dumas aussi, un écrivain, et vous avez Alexandre Graham Bell, écossais, qui est l'inventeur du téléphone. Alors en fait, qu'est-ce qui relie en fait tous ces personnages entre eux? En fait, première chose, Volta, donc physicien, mais surtout c'est l'inventeur de la pile électronique en 1800. Électrique.
Il y a des électrons.
Oh, exactement, il y a déjà des... Alors, il y a des électrons, mais il ne savait pas encore que c'était des électrons. Mais... En 1801, Napoléon Ier, en fait, propose le prix Volta en l'honneur de Volta. Donc il propose un prix donc, de l'État français pour attribuer une bourse, en fait, à des inventeurs et chercheurs sur la thématique émergence de l'électricité. Et donc, il crée ce prix-là pour justement récompenser des chercheurs et des inventeurs au niveau international. Donc, Bell, donc là on est plutôt en 1880, donc Napoléon Ier est déjà décédé, mais en tout cas le prix continue, et va obtenir en fait cette bourse, donc ce prix Volta. Donc l'État français va lui donner 50 000 francs à Bell pour l'invention du téléphone, et dans le comité de sélection, plusieurs scientifiques, mais aussi deux littéraires, à savoir Victor Hugo et Alexandre Dumas, qui vont justement attribuer ce prix à Alexandre Bell. Donc là, vous avez un peu l'histoire avec ces cinq personnages historiques. Et avec ces...
Ouais. Il y a un problème de date avec la mort d'Alexandre Dumas et l'attribution du prix. C'est Alexandre Dumas fils, peut-être, qui était dans la...
Alors, oui, ou alors, exactement, ou peut-être une erreur sur la...
Alors, Dumas est mort plus tard,
À vérifier.
Oui,
ouais, peut-être les fantômes. Mais, et donc surtout, en fait, ce qui est important, c'est que ce prix de 50 000 francs va permettre, en fait, à Alexander Bell de créer son laboratoire. Et il va l'appeler, non pas le Bell Labs, mais il va l'appeler le Volta Laboratory, non pas en honneur de Volta, mais surtout des 50 000 francs qu'il vient de recevoir pour créer son laboratoire. Et donc, il va créer son laboratoire aux États-Unis. Et puis, en fait, vous avez le premier laboratoire qui deviendra plus tard le Bell Labs, notamment à la mort de Bell, en fait, il prendra le nom de Bell Labs et sera racheté par AT&T. Donc vous avez un peu une autre histoire aussi. Donc, alors ce qui est amusant, c'est qu'en 2006, en fait, les Bell Labs vont être rachetés par Alcatel-Lucent, donc le français. Donc, comme si, en fait, on revenait en France et puis, bon, Alcatel-Lucent va être racheté par Nokia après. Donc, voilà. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant aussi de vous montrer ça. L'autre chose aussi, si on regarde le mot nano-électronique, en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Premièrement, on a un ordre de grandeur, donc le nano, d'accord ? Alors, le nano, en fait, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 10⁻⁹ mètres. Donc, vous avez, si on prend des échelles qui sont plus faciles à appréhender, si vous prenez le micromètre, c'est à peu près le diamètre d'un cheveu. Le nanomètre, en fait, c'est 1000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. D'accord ? Et donc, par exemple, le virus est à l'échelle des nanomètres. Et l'autre chose aussi, on avait l'électronique. Alors l'électronique, est-ce que c'est un objet technique, une technologie? Si on regarde un peu les définitions, on est plutôt sur une discipline, en fait, la science qui étudie les électrons, ou une branche de la physique appliquée. D'accord? Donc je vous ai mis un dessin ici, si je dis pas de bêtises, c'est un atome d'hélium. Et en fait, les électrons, c'est les particules élémentaires qui gravitent autour du noyau, en fait, de l'atome d'hélium, où dans le noyau, vous avez deux protons et deux neutrons. Alors du coup, en fait, ça aussi, c'est intéressant, parce que quand on fait une histoire, est-ce que je fais l'histoire de la discipline liée au transistor? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc c'est un peu les interrogations que je me suis posées quand j'ai essayé d'aborder cette histoire-là. Alors en fait, finalement, j'ai plutôt proposé, pas l'histoire de la nanotrique, mais les histoires, en fait, différentes histoires, pour essayer de vous montrer comment tout ça s'est regroupé et comment ça a pu se concrétiser ensemble. Alors premièrement, on peut revenir aussi à Edison. Donc Edison, inventeur, et notamment sur les émissions thermoioniques et le fameux effet d'Edison. Alors Edison, en fait, travaille en fait sur l'amélioration de la lampe à incandescente. Donc là, c'est ce que je vous donnais, vous avez la lampe. Donc en fait, c'est un filament qui chauffe et donc qui éclaire. Il cherche en fait à améliorer cette lampe. Et en fait, en bidouillant un petit peu, il met une plaque. Alors vous avez la plaque en haut à gauche, une plaque métallique. Et en fait, il applique une tension à cette plaque métallique. Il s'aperçoit, en fait, quand on met une tension positive, quand la plaque métallique a une tension positive, il aperçoit une génération d'un courant entre le filament et cette plaque. Alors, à cette époque, on est en 1883, l'électron, on ne connaît pas l'électron. Et donc, il observe, en fait, ce courant qui se crée. Et quand on met une tension négative, il ne se passe rien. Donc ça, c'est le premier, l'effet d'Edison. Et donc, du coup, c'est un des premiers points. assez rapidement après, vous avez Fleming qui va inventer et breveter la première diode. Alors la diode, en fait, ça ressemble en fait à une lampe. Donc vous avez un peu près la lampe. Par contre, vous avez justement la plaque métallique, en fait, qui est justement ce qu'on va appeler la donc vous avez la cathode et l'anode. Et en fait, quand on va chauffer en fait la cathode, donc le filament, on peut observer en appliquant une tension. Donc là, si vous appliquez pas de tension, vous avez le schéma ici. Vous allez avoir un nuage d'électrons au milieu, pas de courant qui se produit. Et dès qu'on appuie une tension positive sur la diode, on va voir un courant qui se crée. Et donc du coup, ça c'est la première diode, donc brevetée par Fleming, et qui va permettre à plein d'applications, notamment c'est plutôt pour redresser le courant, donc notamment d'alternatives au continu pour détecter des ondes radio, etc. Donc après, il y a toute une explication derrière, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Mais surtout, là, c'est important, c'est l'invention de la diode. Le deuxième point aussi, si on revient justement à l'électron, c'est Thomson qui va justement proposer le concept d'électron, en tout cas la découverte de l'électron. Il va même obtenir le prix Nobel en 1906 pour sa découverte de l'électron. Et rapidement après, donc un an après son prix Nobel, donc il découvre l'électron bien avant, mais après, vous avez l'invention de la triode. Alors la triode, c'est comme la diode, mais en fait, il y a une petite subtilité, c'est qu'on va introduire une grille pour justement moduler la tension. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer en fait le courant, est-ce qu'on voit un courant plus important, etc. Et donc du coup, là, ça va être une révolution incroyable parce qu'elle va permettre de contrôler, doser les puissances d'émissions radio, de récupérer des messages sonores. Et donc du coup, c'est à partir de la triode, l'invention de la radio, la télévision, la radar et les premiers ordinateurs. Si on regarde aussi plutôt sur les électrons et photons, là, je vous ai mis une photo. Donc on est sur le 5e congrès de Solvay. Donc sur la photo, vous avez pas moins de 17 prix Nobel de physique. Et vous avez un peu toutes les recherches. Et donc le thème en fait du congrès est électrons et photons. Et vous avez par exemple Bohr, tout ce qui est sur le modèle atomique ou les couches électroniques. Vous avez bien sûr Einstein, vous avez Dirac, vous avez Schrödinger avec ses équations. Enfin, vous avez un ensemble de personnes qui vont justement travailler sur les théories de l'électron, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, etc. Donc du coup, toutes ces personnes ont contribué aussi à comprendre, justement, à produire des connaissances sur l'électron et l'électronique. Donc là, on était plutôt dans l'électronique, le courant, les tensions, etc. Et vous avez un autre domaine qui était un peu différent, qui était les sciences des matériaux. Alors, si vous intéressez aux matériaux, il y a trois grands types de matériaux. Vous avez les isolants, vous avez les métaux, et vous avez un autre type de matériaux qui sont les semi-conducteurs. Alors, en fait, isolant, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'en gros, ne conduit pas le courant. Typiquement, le bois ne conduit pas le courant. Les métaux, à l'inverse, sont des conducteurs de courant. Et vous avez d'autres types de matériaux qui sont les semi-conducteurs, qui sont des matériaux un peu particuliers, qui à la fois conduisent, à la fois ne conduisent pas, en fonction de certaines propriétés. Donc en fait, ça remonte quand même assez loin, notamment la première mise en évidence des matériaux semi-conducteurs, on le doit à Faraday, qui va justement mettre en évidence en fait des matériaux qui sont ni isolants, ni métaux, mais bien d'autres chercheurs vont travailler là-dessus, notamment Becquerel. Alors je vous ai mis un peu les différents projets de recherche. Alors, dans l'annexe, vous avez un peu dans l'annexe de ma thèse, vous avez les détails de chacun, mais je vais pas vraiment rentrer dans les détails. Mais en fait, on voit quand même Becquerel, Brown, Hertz, Wilson, etc., qui vont travailler sur les semi-conducteurs. Mais on voit bien quand même, on avait d'un côté plutôt l'électronique, avec les diodes, et puis d'un autre côté plutôt les matériaux, et notamment les semi-conducteurs. Alors maintenant, si je reviens au Bell Labs, donc bien plus tard après la mort de Bell, et d'une personne qui est assez emblématique, c'est Mervyn Kelly. Alors, Mervyn Kelly, en fait, il commence sa recherche, c'est un chercheur, un physicien américain, il commence son travail de recherche chez Western Electric Company, il va rejoindre les Bell Labs, et puis en 1936, il va devenir directeur de la recherche au Bell Labs. En 1936, il va recruter Shockley pour le faire travailler dans le département Vacuum Tube Department. Donc là, on est typiquement dans le département sur les tubes électriques. Donc là, pour les applications type radar, radio, etc. Et puis en 1939, vous voyez, 2 ans après, il va proposer à Shockley de devenir responsable des projets en lien avec les semi-conducteurs. Alors ça, il y a beaucoup d'histoires en fait sur les Bell Labs. Il y avait une particularité chez les Bell Labs, c'est que les chercheurs avaient une capacité de changer de domaine d'expertise dans leur recherche de façon assez régulière et systématique. Donc là, il y a des monographies, si ça vous intéresse, je peux vous donner les références. Donc du coup, on voit Shockley commence dans les tubes à vide et va travailler sur les semi-conducteurs. En 1945, la création du Solid State Physics Department, qui va être dirigé par Shockley, et qui va recruter 2 chercheurs, à savoir Britten et Bardeen. Alors si on s'intéresse toujours à Kelly, il va devenir vice-président et puis président en fait des Bell Labs. Alors, si on reprend un peu la période 39-45 chez les Bell Labs, hein, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a à peu près plus de 2000 projets de recherche. Donc là, on va s'intéresser plutôt à la partie électronique semi-conducteur, mais il y a beaucoup d'autres domaines qui vont être traités par les Bell Labs. L'autre chose aussi, ce qui est intéressant de montrer, c'est que l'État américain est un gros sponsor en fait, des Bell Labs. C'est-à-dire, en gros, quasiment 50% du budget total des Bell Labs est assuré par l'État américain. D'accord ? Même si on est dans une entreprise privée, c'est quand même l'État américain qui va sponsoriser ces recherches. Et en fait, on doit surtout à Mervyn Kelly la formulation d'un premier concept que je vais vous expliquer, que je vais vous montrer tout de suite. Il va faire en fait proposer un concept en disant voilà, est-ce qu'on peut faire des dispositifs de communication, de commutation à l'aide de matériaux semi-conducteurs ? Donc la commutation, c'est-à-dire en gros, on fait passer un courant, on ne le fait pas passer, type la diode ou la triode. Il se dit mais pourquoi on ne pourrait pas le faire dans les semi-conducteurs ? En fait, il a déjà une intuition, en fait. La première, c'est de dire, en fait, la triode, c'est dans du vide, c'est quelque chose de très fragile, quand on transporte, ça peut se casser, etc. Mais si on peut le faire dans quelque chose de solide, eh ben, on a plein de problématiques qui sautent. Et donc, en fait, il va proposer ce concept-là, et il va mandater Shockley pour travailler sur ce projet-là. Alors, en fait, premièrement, la question qu'on peut se poser, c'est quand on dit dispositif de commutation à l'aide de matériaux semi-conducteurs, on est face à quoi, en fait ? Alors, du coup, dans ma thèse, je propose d'appeler ça, en fait, un concept proto-épistémique. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes, parce que vous avez vu que le mot était dans la présentation. Alors, déjà, concept. Alors, concept, pour ceux qui connaissent les travaux de la chaire, ça ne va pas vous paraître surprenant, c'est qu'on a déjà dispositif de commutation à l'aide de semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'indécidable. On comprend les deux propriétés. Par contre, l'association de ces deux propriétés, c'est vraiment un pur indécidable. D'accord ? Donc, vraiment concept. Par contre, on n'est pas dans un concept de produit ou de techno avec une application donnée, etc. On est plutôt sur un champ scientifique. C'est pour ça que j'ai utilisé le côté épistémique pour épistémer, en fait, donc la connaissance. Et proto, c'est-à-dire en voie de devenir, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut produire des connaissances pour générer un dispositif de communication, de commutation à l'aide de matériaux semi-conducteurs ? Et l'autre chose qui est très importante, en fait, c'est qu'il propose en fait ce concept-là à partir de 2 champs d'expertise ou de disciplines qui étaient a priori distincts, science des matériaux, notamment semi-conducteurs, et puis l'électronique classique d'un autre côté. Et du coup, c'est la convergence de ces 2 champs, est-ce qu'on peut créer quelque chose ? Donc ça, c'est le premier concept. Si je continue un petit peu, en fait, en 1945, Shockley va proposer un premier prototype et à force de travailler avec ses 2 collaborateurs, le 23 décembre, ils vont pouvoir observer. Donc là, je vous ai. Alors, ici sur la photo, vous avez le premier transistor. Hein, il est au niveau. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez gros comme ça. Hein, donc, c'est quelque chose de gros, très loin d'être nano encore. Et donc là, je cite. On va observer. Alors, un petit courant positif appliqué à l'un des 2 contacts avait une influence sur la valeur du courant qui se propageait dans l'autre contact et dans le substrat de germanium. Alors, le germanium, c'est un semi-conducteur. Et donc, en fait, quand vous appliquez une tension juste ici, on observe ce premier courant, notamment dans le matériau semi-conducteur. Donc ça, c'est vraiment, en fait, le premier transistor. Et en fait, il était possible d'amplifier un courant par l'intermédiaire d'un composant solide. Donc finalement, on refaisait exactement la même chose que sur la diode, mais cette fois-ci sur du solide. D'accord ? Donc voici, en fait, le premier transistor. Et c'est pour cette invention qu'ils recevront le premier prix Nobel. Alors, en fait, ça, c'est un premier transistor qui ne va pas servir à grand-chose dans l'industrie. Et en fait, on va avoir beaucoup de nouvelles propositions de transistors. Notamment Shockley, qui était le patron de l'équipe, va proposer une théorie des jonctions PN. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plusieurs types de transistors. Transistors à jonction, transistors à effet de champ. Premier circuit intégré, c'est en 1959. Et notamment, en 1960, vous avez le transistor MOS, qui est actuellement le transistor le plus utilisé dans l'industrie. D'accord ? Et en 1960, on est toujours chez les Bell Labs. D'accord ? Et donc là, vous avez ici le schéma d'un transistor. Et ici, vous avez la photo d'un transistor actuel. Donc en fait, vous retrouvez ici, alors je vais vous montrer. Là, vous avez ici ce qu'on appelle la source, la gate et le drain. Et en fait, vous avez ici un semi-conducteur. Vous appliquez une tension. Alors quand la tension est supérieure à une tension de seuil, vous avez des électrons qui vont s'échanger. Donc un courant qui va se créer. Et quand vous avez une tension qui est inférieure, là vous avez des trous, donc pas de courant qui passe. D'accord ? Donc vous avez vraiment la commutation, ce qui va donner le 0 et le 1 pour l'électronique. Et ici en fait vous retrouvez la gate, et ici la source et le drain, et ça c'est les interconnexions. Donc ça c'est le transistor qu'on a actuellement. Je vais continuer un peu sur l'industrie des semi-conducteurs pour vous montrer un peu comment ça s'est développé. Ici, vous avez une cartographie complète de toutes les entreprises des semi-conducteurs à partir, alors, ici en 55. Alors parce que donc on est au Bell Labs, donc on est plutôt dans le New Jersey, donc plutôt la côte est américaine. Et en fait, Shockley va être embauché par Beckman Instruments pour créer son laboratoire. Et donc il va partir en Californie pour créer son laboratoire. D'ailleurs, il va proposer à ses collaborateurs du Bell Labs de les rejoindre, et en fait l'histoire dit que personne ne l'a suivi. Apparemment Shockley était quelqu'un que personne n'appréciait, donc personne du tout ne l'a suivi pour créer son laboratoire. Et donc il va créer son laboratoire, et puis en 57, donc 2 ans après, la création de Fairchild Semiconductor, qui est la première grande entreprise de semi-conducteurs, et qui va être créée par, je cite, les 8 traîtres. Les 8 traîtres, ce sont les 8 collaborateurs en fait, de Shockley, qui au bout de 2 ans en travaillant avec lui, se sont dit on n'en peut plus, on va créer notre boîte sans Shockley. Et donc du coup, si vous tapez les 8 traîtres, et vous avez toute l'histoire en fait, de Fairchild, et ils vont quitter le laboratoire de Shockley pour créer leur première entreprise. Alors, vous voyez la multitude des entreprises, j'en ai mis 2 autres parce que c'est les plus emblématiques et celles qui existent toujours. Donc Intel qui va être créé en fait par des gens de Fairchild, et puis aussi AMD aussi. Donc voilà, donc vous avez un peu toute la généalogie et aussi l'explication un peu de la création de la Silicon Valley.
La signification des traits, c'est des transferts de personnel.
Exactement, c'est transfert de personnel. C'est-à-dire qu'en gros, Intel a été créé que par des anciens de Fairchild. AMD, exactement pareil. Donc là, il faut rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est vraiment les relations.
Ouais. Tu fais des lignées de cerveau, là.
C'est en tout cas les personnes qui étaient dans telle entreprise et qui sont parties d'entreprise pour créer leur propre entreprise.
Okay.
Donc, juste, je vais pas revenir très longtemps là-dessus, mais ici, vous avez un peu le processus de fabrication, parce que vu qu'on est quand même sur des choses nanométriques, mais comment on conçoit ces choses-là. Donc, en fait, juste pour vous donner un peu l'image, c'est-à-dire que le transistor, donc le matériau semi-conducteur de base, c'est le silicium. Donc le silicium, en fait, c'est un matériau qui a l'avantage d'être très peu cher. En fait, le silicium, c'est du sable. Et donc, en fait, à partir de tubes de silicium, ici, là, on peut créer en fait, ce qu'on appelle des wafers, c'est des plaques de silicium. Et à partir de là, on va pouvoir faire tout. Il y a tout un processus de fabrication, de gravure, de photogravure, etc., qui vont permettre, en fait, de concevoir la puce électronique et les transistors. Et donc, à la fin, vous avez ici les petites puces avec des millions, voire des milliards de transistors dans chaque puce. L'autre chose qui est importante, c'est la fameuse loi de Moore. Donc Moore, en fait, est ingénieur chez Fairchild, quitte Fairchild et va créer Intel, donc c'est un des fondateurs d'Intel, et il va proposer une loi qui repose sur plutôt une constat, hein, c'est plutôt une loi empirique, qui est le doublement du nombre de transistors sur un circuit intégré tous les 2 ans. Donc là, vous avez la fameuse loi, il remarque juste ça, et il va aussi montrer quelque chose de très important, c'est qu'en réduction, la réduction des dimensions du dispositif, elle permet 2 choses. Premièrement, l'amélioration des performances. C'est-à-dire, si on réduit la taille du transistor, on réduit la distance d'échange entre les électrons, donc on peut aller beaucoup plus vite, donc beaucoup plus performant. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on peut mettre plus de transistors sur un même wafer de silicium. Donc du coup, on gagne au niveau coût unitaire. Donc pendant très longtemps, en fait, le loi de Moore va être un peu le driver de l'industrie semi-conducteur, et l'enjeu, en fait, c'était de suivre cette loi de Moore, c'est-à-dire, en gros, faire une stratégie de scaling, c'est-à-dire diminuer le transistor de plus en plus. Donc là, vous avez, par exemple, donc ce qu'on a appelé pendant les années 80-90, c'était le happy scaling, où, en gros, il suffisait vraiment de réduire la taille du transistor, donc il y avait tous des modèles théoriques là-dessus, sur comment on peut réduire la taille du transistor. Et là, vous avez un exemple, là, vous avez, par exemple, ici, une puce. Là, vous avez la puce, alors, c'est une vue de coupe. Tout ce qui est au-dessus, c'est toutes les interconnexions, c'est-à-dire tous les transistors qui communiquent les uns avec les autres. Vous avez le transistor en bas. Là, vous avez 1, 2, 3, 3 transistors. Là, vous avez un transistor. Donc, on voit en échelle nanométrique. D'accord. Alors, donc, juste dans les années 90-2000, c'était vraiment le happy scaling. Et puis, fin années 90, on s'apercevait, en fait, qu'on commençait à avoir des limites physiques. Alors, en fait, des limites physiques assez simples parce que là, vous avez un exemple, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, on réduisait vraiment la taille de la gate, donc c'est-à-dire l'endroit où les électrons s'échangeaient. Mais plus vous rapprochez, alors vous avez ZCE, c'est une zone où justement, là, les électrons font un peu n'importe quoi, il devient très compliqué de les contrôler, et plus vous rapprochez ces 2 zones, bah, finalement, on n'arrivait plus vraiment à contrôler la génération du courant, en fait, entre la source et le drain. Donc très rapidement, vous avez plein d'effets négatifs, qui vont être les effets canaux courts, la résistance ancienne, etc. Et en fait, il y avait un enjeu de repenser l'architecture du transistor. Donc c'est là où je vais revenir un peu chez ST Microelectronics. Moi, j'arrive en 2013, et déjà dans les années, on va dire, 88, donc fin des 90, et surtout début des années 2000, 2003-2004, ST Microelectronics travaille sur ce projet-là en disant quel sera l'avenir du transistor, quelle nouvelle architecture on peut faire. Alors ici, vous avez un exemple de l'ensemble des concepts alors, proposés par ST et non proposés par ST. Et surtout, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ici, vous avez le transistor de base qui était le bulk silicon. Et vous allez voir différents concepts. Donc là, vous avez la partie plutôt, ici à votre droite, c'est plutôt la partie qui va être suivre par Intel sur de nouvelles architectures en trois dimensions, justement pour contrecarrer ces effets négatifs et pouvoir continuer en fait le scaling. Et ici, vous avez un peu toute la stratégie d'exploration poursuivie par ST. Donc ST travaille sur, alors je ne vais pas rentrer dans les termes qui sont un peu barbares, mais en tout cas, ils vont arriver à une des solutions qui est ce qu'on appelle le UTBB FDSOI. Donc je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est, mais en gros, l'idée, c'était de rajouter ce qu'on appelle un isolant, c'est la partie jaune, juste en dessous, pour pouvoir contrôler en fait les différents effets négatifs. Alors en fait ça s'explique, en tout cas il explique assez bien comment on peut faire ça, mais ça paraît simple en fait de rajouter ça, mais en fait dans les processus de fabrication ça demande des étapes extrêmement complexes, et du coup c'est quelque chose, un enjeu très, enfin cette technologie est un enjeu considérable en tout cas pour ST. Donc actuellement en fait chez ST, donc là on est en 2018, c'est la technologie phare en fait d'ST, et vous avez en fait deux propositions qui est la technologie FDSOI et la technologie FinFET d'Intel, qui sont un peu les deux technologies en concurrence. Alors après, ils sont répartis un peu en fonction aussi des applications qui veulent... Enfin, parce que ST n'a pas vraiment les mêmes clients que Intel, etc. Mais en tout cas, vous avez les deux grandes technologies phares, en tout cas, deux transistors. Alors, juste, si on fait un petit point sur ce qu'on peut observer sur ces stratégies-là, premièrement, on retrouve en fait le concept de proto-épistémique. C'est-à-dire qu'en gros, quand on dit sur UTBB FDSOI, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un objet technique, ce n'est pas un produit, pas forcément une technologie, c'est une architecture de transistor, mais qui demande, c'est plutôt une nouvelle expertise de transistor. Donc on n'a pas de logique produit, ni de marché, et ni de la discipline scientifique. D'accord ? On n'est pas dans une logique purement scientifique, une discipline qu'on cherche à améliorer, etc. L'autre chose qu'on aperçoit chez ST, c'est une exploration d'une variété de concepts très différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule voie, c'est une exploration très vaste de concepts. L'autre chose aussi, alors là je ne vous avais pas parlé avant, mais c'est surtout la mise en évidence de relations d'interdépendance entre plusieurs domaines d'expertise. En tout cas, toutes les discussions sur les technologies tournaient sur une problématique qui était si on change l'architecture de transistor, notamment si on passe sur des technologies 3D, ça va bouleverser quasiment toutes les expertises. C'est-à-dire en gros, toute la façon de fabriquer le transistor. Si vous passez en architecture 3D, il faut réinventer toutes les machines. Et donc, il y avait un enjeu de changer radicalement sans trop changer non plus. C'est-à-dire penser l'interdépendance avec les autres disciplines pour être capable de fabriquer ce transistor. L'autre chose qui est surprenante, c'est que la stratégie de recherche, en tout cas, est pilotée par les experts scientifiques et techniques de l'entreprise. Donc c'est les experts et scientifiques de l'organisation qui vont piloter cette stratégie d'exploration. Bien sûr, en collaboration avec des centres de recherche, notamment le CEA, l'IMEP, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le top management n'est pas tout prescripteur de la stratégie de recherche. C'est-à-dire, le top management va dire « je veux un transistor plus puissant, plus rapide, qui consomme moins, etc. » Par contre, sur les choix techniques, c'est les experts scientifiques et techniques qui vont s'organiser pour discuter des différentes voies scientifiques et techniques. D'accord ? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment justement, c'est la gouvernance, c'est-à-dire en gros, comment ces experts se sont organisés pour arriver en fait à travailler sur ces différents concepts, quelles ont été les relations, les modes de coordination, les échanges, etc. Alors, c'est là où je vais revenir un peu sur la partie management. J'ai fait une thèse en sciences de gestion, donc il faut que je revienne un petit peu sur la gestion. Et du coup, quand j'ai travaillé un peu sur ma thèse, je me suis intéressé aux grands modèles classiques, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on a des modèles managériaux qui expliquent un peu comment on peut faire émerger de nouvelles connaissances, de nouvelles expertises dans l'organisation. Alors, il y a un premier modèle qui est le modèle de la recherche industrielle. Alors, le modèle industriel, en fait, qui se base plutôt sur les grands laboratoires dans les entreprises. Donc, vous avez différents domaines d'expertise et différents laboratoires en fonction de ces domaines d'expertise. Et finalement, si on s'intéresse au processus d'émergence d'expertise, on est plutôt dans l'amélioration ou l'accroissement des connaissances dans des domaines d'expertise existants ou identifiés. C'est-à-dire ceux de la science des matériaux au fond des sciences des matériaux, les électroniciens, l'électronique, etc., etc. D'accord ? Ça, c'est le premier modèle. Deuxième modèle, c'est plutôt la gestion de projet, on dirait le New Product Development, où là, on est plutôt du renouvellement des domaines d'expertise à partir de stratégies de produits. C'est-à-dire qu'on veut concevoir tel produit. Pour concevoir tel produit, on doit produire des connaissances, des expertises, et en fait, toute l'expertise va être drivée en fait, par des stratégies de produits. Et enfin, il y a le troisième aussi, qui est assez simple à comprendre, c'est plutôt un modèle d'absorption. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas forcément l'expertise en interne, et on peut la récupérer à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire, soit recruter le chercheur à l'extérieur de l'entreprise qui a cette expertise-là, soit éventuellement rachat d'entreprise, etc. Donc ça, c'est un peu les trois grands modèles, en tout cas gestionnaires, pour expliquer l'émergence d'expertise nouvelle dans les organisations. Alors, ces modèles aussi, ils ont des choses très importantes sur le rôle de l'expert dans l'organisation. En fait, généralement, dans ces modèles, l'expert, si vous dites « je suis expert », on va vous dire « vous êtes expert en quoi ?» C'est-à-dire qu'on s'attend à un domaine d'expertise. C'est-à-dire que l'expert est expert dans un domaine d'expertise. A priori, dire « je suis expert en plusieurs domaines d'expertise », c'est quand même assez, c'est pas forcément naturel. L'autre chose aussi, c'est que le statut d'expert dans l'organisation est souvent corrélé à sa durée d'expérience. Et expert, celui qui a 10 ans d'expérience dans le domaine. D'accord ? L'autre chose aussi, c'est que l'action collective de ces experts, de ces scientifiques, se fait au sein même des domaines d'expertise. C'est-à-dire, l'expert en sciences des matériaux va parler avec les experts en sciences des matériaux. L'expert en process va parler en process. L'expert en manufacturing va parler avec les experts en manufacturing. Et il n'y a pas forcément de collaboration, en tout cas dans le processus de création de connaissances, entre les experts. Donc ça, en fait, c'est ce que vous dit en fait, les modèles classiques managériaux. Quand on regarde en fait, chez ST, premièrement, première surprise, pas de corrélation entre le statut d'expert et la durée d'expérience. C'est-à-dire que vous avez des très jeunes chercheurs qui viennent de soutenir leur thèse, qui sont reconnus comme les experts dans le domaine. L'autre chose aussi, c'est que les experts, quand on les interroge, ils sont souvent experts dans plusieurs domaines d'expertise, pas un seul. Et enfin, c'est pour chez ST, l'action collective des experts dans la production de connaissances, elle n'est pas limitée au domaine d'expertise, c'est-à-dire des experts a priori de différents domaines ont la capacité de collaborer ensemble dans la production d'expertise. Alors ça, je vous donne un petit graphe. Ça, c'est la représentation chez ST au niveau plutôt, on va dire, gestion de compétences, où en fait l'organisation avait différents domaines de compétences et plaçait ces différents experts dans ces domaines d'expertise. Donc là, vous avez par exemple le manufacturing, vous avez les experts en manufacturing, vous avez les experts en process semi-conducteur, les experts en tout ce qui est analogique et design des circuits, etc., etc. Et du coup, j'ai essayé de regarder en fait ces experts et leur demander plutôt de regarder en fait par rapport au déclaratif, c'est-à-dire en gros, vous expert dans quel domaine d'expertise vous êtes expert. Alors, j'ai utilisé plusieurs méthodes, mais j'ai surtout regardé en fait le site, je ne sais pas si vous connaissez, ResearchGate, c'est une plateforme pour scientifiques, et en gros, la plupart des experts chez ST sont sur cette plateforme-là. Donc, ils déclarent aussi leur expertise, on a accès à toutes leurs publications, leurs brevets. Et en regardant en fait ces relations-là, moi, j'obtiens ce type de graphe. Donc, on voit bien, il y avait une première vision qui était des experts indépendants de domaine d'expertise, qui ne se parlent pas forcément, etc. Et en fait, quand on regarde le déclaratif des experts, ben, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que là, vous avez toujours en rose les domaines d'expertise et en vert les chercheurs. Donc là, vous voyez en fait un réseau où les experts en fait ont des domaines d'expertise vraiment communs. Alors, on peut faire des cartographies intéressantes. C'est que là, je peux cartographier. Là, c'est les domaines d'expertise et les liens, c'est les experts. D'accord ? Donc, c'est les relations entre domaines d'expertise en fonction des experts. Donc, on peut voir en fait toutes les expertises chez ST et leurs relations entre elles. Donc ça, c'était un premier point pour montrer en fait que les théories classiques en management qui disaient il y a une indépendance des domaines d'expertise, ben en fait, finalement, on ne le retrouve pas. En tout cas, chez ST, l'analyse empirique démontre que les domaines d'expertise ne sont pas indépendants les uns des autres, mais plutôt interdépendants. Alors, on a parlé transistor, mais je vais parler aussi d'autre chose, qui est la photonique sur silicium. Donc quand j'arrive chez ST, je travaille avec des chercheurs sur la photonique sur silicium. Et pareil, la photonique sur silicium, qu'est-ce que c'est ? Produit, une techno. Alors déjà, c'est un concept. C'est un concept pour deux choses. Parce que la photonique, c'est quoi ? Alors, l'électronique, vous avez compris, hein, l'électronique, c'est du contrôle d'électrons dans du silicium. La photonique sur silicium, c'est le photon. Donc la photon, c'est la particule élémentaire de la lumière dans du silicium. En fait, l'idée derrière, c'est de dire, bon, on s'est amusé avec les électrons dans le silicium, est-ce qu'on pourrait pas contrôler, non pas les électrons, mais les photons dans, dans le silicium? Alors pourquoi les photons? Déjà, photons, vitesse de la lumière, donc beaucoup plus rapide et beaucoup moins de déperdition d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour l'industrie. Donc on voit bien aussi chez ST la capacité à formuler un nouveau concept photonique sur silicium. Alors, quand on regarde un peu de plus près l'émergence de la photonique sur silicium chez ST Microelectronics, premièrement, en fait, on retrouve un peu les mêmes choses. C'est-à-dire que chez ST, il y avait tout un département qui était plutôt sur la photonique, mais plutôt pour des applications de type optique. C'est-à-dire, en gros, la création de caméras pour les téléphones, etc. Donc, il y avait une expertise, en fait, en optique. Mais indépendante, en fait, de tout ce qui était micro, enfin, transistor pour les microcontrôleurs ou les microprocesseurs. Donc, émergence d'un nouveau domaine d'expertise à partir de deux domaines d'expertise déjà existants. Ce champ d'innovation, un peu comme en fait ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas orienté produit ou application, mais c'est toujours un concept de proto-expertise, c'est-à-dire c'est une expertise en voie de devenir, pas stratégie produit, pas récupération d'expertise en externe de l'organisation, c'est-à-dire les experts eux-mêmes dans l'organisation qui ont la capacité à générer un nouveau domaine d'expertise. Et puis ce qu'on va s'apercevoir aussi, c'est une restructuration de l'ensemble des domaines d'expertise existants par rapport à celui-ci. C'est-à-dire, à partir du moment où je dis photonique sur silicium, je dois imaginer les nouvelles façons de fabriquer, de tester, de penser, etc., etc. Donc du coup, l'ensemble des expertises de l'organisation va être modifié. Donc j'impacte toutes les expertises. Et en fait, quand on regarde ce processus-là, on n'est ni dans un modèle de recherche industrielle, où en gros on aurait différents laboratoires et une science plutôt cumulative dans chaque domaine, ni dans la gestion de projet, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas un projet photonique sur silicium, on n'a pas d'application en tête, ni de produit, ni de client, et ni d'absorptivité, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher de la connaissance à l'extérieur de l'entreprise. C'est bien les experts eux-mêmes qui ont une capacité, on va dire, à muter d'expertise ou à générer une nouvelle expertise. Alors là, ça fait quand même deux choses importantes, c'est-à-dire que vous avez vu le FDSOI, la photonique sur silicium, on peut se dire, bon, est-ce qu'on est sur deux exemples un peu... Enfin, on va dire des coups de bol où ils ont réussi à faire ça deux fois, ou est-ce qu'on est plutôt dans un régime systématique et régulier? Alors, du coup, l'idée, c'était de dire, bah, on va essayer de regarder un petit peu si ST a la capacité, justement, à générer ces nouvelles expertises dans l'organisation. Alors, pour ça, j'avais besoin, en fait, d'observables pour essayer de les caractériser. Et du coup, je me suis intéressé au portefeuille de thèses, notamment les thèses cibles, chez ST pendant une période de 12 ans. Donc, ST a à peu près 50 thèses par an qui est lancée, donc il y a 50 thésards sur une année, qui travaillent sur les projets de recherche. Et du coup, l'idée, c'était de regarder ces thèses et à partir des mots-clés des thèses, essayer de comprendre si on voyait des nouvelles expertises émerger. Alors là, en fait, c'est le... Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, en tout cas, là, c'est l'ensemble des nouveaux domaines d'expertise que j'ai mis en évidence à partir de l'étude des thèses cifres. Donc en fait, ici, vous avez 2004, et ici, vous avez 2015. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si vous prenez 2004 et 2015, vous voyez apparaître des nouveaux mots, des nouvelles expertises et certaines expertises disparaître. Et en fait, on le voit sur 12 ans, une capacité assez importante à générer continuellement de nouveaux domaines d'expertise. Donc en fait, ce qu'on voit chez ST, c'est que la photonique sur silicium ou la FDSOI, c'est pas quelque chose de singulier, mais plutôt finalement quelque chose de régulier et systématique. C'est-à-dire ST a la capacité à générer, à faire émerger de nouveaux domaines d'expertise dans l'organisation. Donc du coup, en fait, toujours la même question, c'est-à-dire en gros, mais comment elles se structurent ces expertises et quelle est la dynamique? Donc ça, moi, là, je montrais justement cette capacité à faire émerger et maintenant, je voulais m'intéresser aux structures de ces expertises-là. Alors, pour cela, en fait, j'ai continué en fait sur cette chiffre et j'ai décidé, donc là, je vais vous présenter certains graphes que j'ai mis en évidence dans ma thèse. C'est-à-dire, si vous prenez un sujet de thèse, on peut le coder et le présenter de cette façon-là. C'est-à-dire que vous avez trois mots-clés de la thèse, et on peut faire ce petit graphe. Donc, c'est donc une thèse, finalement, c'est ce petit graphe, donc ce triangle, qui relie en fait trois mots-clés en fait, de la thèse. Donc, en gros, l'idée, ce que j'avais en fait intuitivement, c'est-à-dire que devrais retrouver différents domaines d'expertise et différentes thèses. C'est-à-dire qu'il y aurait des thèses qui seraient reliées les unes aux autres, c'est-à-dire qu'on aurait des stratégies de recherche et des généalogies de recherche dans des domaines d'expertise, si bien qu'une nouvelle thèse, on pourrait soit la voir apparaître dans les domaines d'expertise reliés, ou éventuellement complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, Estée se dit, tiens, je vais lancer un nouveau projet qui est indépendant des autres pour tester des choses. Donc ça, un peu, c'est ce que j'avais en tête. Donc à partir de là, vous pouvez faire des petites simulations. Donc là, c'est vraiment de la simulation où on aurait différentes thèses. Donc le nœud est grossi à chaque fois qu'il y a le mot-clé apparaît. Et donc on pourrait faire des simulations où on verra apparaître des nouveaux domaines d'expertise, etc. Ce qui pourrait permettre d'expliciter la capacité, en fait, à générer de nouvelles expertises. On pourrait dire que les experts sont capables d'aller chercher un laboratoire, de faire des concepts innovants, etc., et de faire émerger de nouvelles expertises. Et en fait, quand on compare, donc là, vous avez, là c'est vraiment l'analyse empirique chez ST, c'est plus de la simulation. Donc vous avez même les noms, en fait, des expertises. On commence à voir, en fait, ces différents clusters, en fait, d'expertise. Mais rapidement, quand on regarde un peu, et quand on regarde au fil des années, donc là, en 2008, 2012, et là, on est en 2014. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est non pas des thèses indépendantes les unes des autres, mais plutôt, en fait, un réseau, c'est-à-dire toutes les thèses sont reliées les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire, en fait, c'est une réorganisation massive de différents domaines d'expertise dans l'organisation. C'est-à-dire une capacité à générer à partir, en fait, des domaines existants chez ST. Et surtout, une réorganisation massive de ces expertises les unes par rapport aux autres. Alors, tout ça, en fait, ça demande, en fait, ça met en évidence des nouveaux enjeux managériaux. C'est-à-dire, en gros, chez ST, ce que je vous disais, ça c'est un peu schématique, c'est-à-dire, à partir de plusieurs domaines d'expertise distinctes, la capacité à générer des champs d'innovation qui sont plutôt des concepts de proto-expertise, des concepts de proto-épistémique, c'est-à-dire orientés sur la connaissance, de piloter la réorganisation massive des domaines d'expertise existants, de le rendre légitime dans l'organisation, c'est-à-dire qu'en gros, on pourrait dire, mais comment, qui leur donne le droit de faire ça, comment ils choisissent, etc. Et puis justement, de faire émerger ce son d'expertise dans l'organisation. Et du coup, c'est ce qui permet justement cette dynamique endogène, en tout cas chez ST. Alors du coup, je me suis intéressé, mais alors du coup, d'un point de vue gestion, gouvernance, comment elle s'organise? Alors, si on reprend en fait la littérature en gestion, vous avez une terminologie qui est très répandu, qui sont les communautés de savoir, on va dire les communautés épistémiques. Alors, c'est des concepts qui datent des années 2000, et en fait, qui essaient de montrer que dans l'entreprise, il y a différents types de modèles de coordination, notamment la hiérarchie, c'est-à-dire le chef. Vous avez aussi le contrat, je contractualise avec un tel, et d'autres modes de coordination qui étaient plutôt de type communautaire, notamment épistémique. Alors, vous avez deux grands concepts qui sont les communautés de pratique et les communautés épistémiques. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est le comité épistémique. C'est-à-dire qu'en gros, telle qu'elle est définie, c'est un groupe d'individus qui partagent en fait un objectif commun de création de connaissances dans un domaine d'expertise donné. C'est-à-dire, pour qu'il y ait communauté, il faut qu'il y ait d'abord ce commun-là, notamment le commun et le domaine d'expertise. C'est-à-dire, je suis électronicien, je travaille avec les électroniciens pour produire de la connaissance dans le domaine de l'électronique. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit en fait chez ST, en tout cas, c'est qu'en gros, on sort de cette logique-là. C'est-à-dire qu'on voit des experts de différents domaines d'expertise qui sont capables de travailler ensemble sur, non pas des domaines d'expertise existants, mais sur des concepts de proto-expertise. Quand je dis photonique sur silicium, on est bien sur du concept. Et en gros, ça nécessite que des experts de différents domaines d'expertise puissent collaborer ensemble pour faire émerger en fait ce domaine d'expertise complètement nouveau. Alors, c'est pour ça, en fait, que j'ai introduit le concept de société proto-épistémique pour le distinguer par rapport au concept de communauté épistémique. Alors, deux choses. Premièrement, en fait, je m'appuie sur les travaux de Tonitz, qui distingue communauté et société, donc il y a un livre de Tonitz, communauté et société. Je ne vais pas vraiment revenir là-dessus, mais j'ai plutôt distingué les deux concepts, en tout cas le concept de société proto-épistémique, comment je le définis par rapport à communauté épistémique. En fait, communauté épistémique, on est dans la création et l'accumulation de connaissances dans un champ d'expertise identifié et considéré. C'est-à-dire, le commun, il est identifiable et stable. C'est-à-dire, je suis électronicien, je fais partie de la communauté des électroniciens et je produis de la connaissance dans l'électronique. C'est-à-dire que l'unité des membres, elle existe a priori. C'est par rapport à mon domaine d'expertise que je fais communauté. Et il y a des règles sociales propres à chaque communauté, notamment le langage, etc., etc. Et des normes qui sont communément acceptées par ces communautés. On retrouve un petit peu, si vous voulez, les communautés scientifiques, c'est-à-dire les disciplines, etc. À l'inverse, dans la société proto-épistémique, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est qu'en gros, l'enjeu n'est pas de création de connaissances dans un champ bien déterminé, mais elle est plutôt dans la capacité à faire émerger des proto-expertises, c'est-à-dire proposer des concepts pour faire émerger de proto-expertises. et surtout de réorganiser l'ensemble des structures d'expertise dans l'organisation. Là, ce qui est intéressant, c'est que le commun, il n'existe pas, il est inconnu. En fait, il est à concevoir. Et ce commun, justement, c'est ce concept de proto-expertise. On va devoir travailler ensemble autour de ce projet-là pour le faire advenir, cette nouvelle expertise. Donc, il n'y a pas d'unité, en fait, existante a priori. C'est-à-dire, en gros, c'est la volonté des experts de faire société pour faire émerger cette proto-expertise. Et donc, du coup, en fait, c'est une coopération entre différentes communautés, entre différents individus de communauté, pour faire émerger cette nouvelle expertise. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est de proposer ce concept de société proto-linguistique pour rendre compte, en fait, de cette capacité, en fait, de ces experts à se coordonner, alors même qu'ils n'ont pas les mêmes domaines d'expertise, autour de ces concepts de proto-expertise. Alors, de façon très concrète, chez ST, ça s'est concrétisé par plusieurs choses. Premièrement, en fait, c'était plutôt une forme de... En gros, ce que je montrais chez ST, c'est qu'ils avaient la capacité, justement, à faire ceci. Ils n'avaient pas forcément les outils managériaux et la reconnaissance de ce processus-là. Donc, l'idée, c'était plutôt une forme de rationalisation. Et donc, ST a créé le Technical Staff College, donc c'est le nom moins barbare de société proto-épistémique, utilisé en interne, qui est justement, en fait, la gouvernance des experts. C'est-à-dire, les experts disent, en effet, on doit piloter les stratégies d'élaboration de concepts en lien avec les expertises. Donc, mise en place, et ils vont se donner comme objectif, justement, d'être en capacité de générer des concepts de proto-expertise, de le piloter leur organisation avec les domaines d'expertise, de légitimer dans l'organisation pour les faire émerger dans l'organisation. Alors, en fait, elles s'organisent de cette façon-là, c'est-à-dire qu'en fait, les experts, donc chez ST, vous avez des experts de différents domaines d'expertise qui vont se regrouper dans ce Technical Staff College. En fait, vous avez différents niveaux d'experts en fait dans l'organisation, notamment les fellows, c'est les experts en fait seniors. Et en fait, il y a un processus d'élection, c'est-à-dire le chairman de ce Technical Staff College est élu en fait par ses pairs, d'accord. Et il va organiser justement le pilotage de ces explorations pour la création des proto-expertises. Alors, il y a plusieurs choses en fait. C'est que vous avez dans ce Technical Staff, l'ensemble des experts, en lien aussi avec d'autres parties prenantes qui sont les managers et notamment les ressources humaines, et qui travaillent ensemble pour travailler sur l'émergence de proto-expertise. Ouais.
Est-ce que tu as étudié le profil, est-ce qu'il y a un profil particulier à ceux qui sont sur le board fellow, hormis la question de la classe d'âge ? Parce que quand je fais des missions auprès de boîtes comme la CETEC et tout ça, qui ont des structures assez particulières, assez modulaires, qui font de l'intrapreneuriat par exemple, il se trouve qu'il y a certains acteurs qui, dans ton graphe tout à l'heure, quand tu mettais les traits entre les domaines d'expertise, il y a certaines entités chez eux qui s'appellent les barons, et en fait, qui sont les personnes qui, par leur trajectoire, connaissent les différents métiers de l'entreprise et tout ça. Si tu en fais sauter un, en réalité, tu casses des nœuds très particuliers qui permettent de relier différents îlots d'expertise. Est-ce que la même chose se retrouverait dans cette structure-là? C'est-à-dire que les board fellows, c'est pas par hasard qu'ils sont là, et même ils représentent une fragilité du nœud, c'est-à-dire qu'ils meurent, il se trouve qu'on se trouve avec une difficulté de cohérence entre les différents nœuds.
Ouais, tout à fait. Alors en fait, justement, le fellow, c'est l'expert expérimenté qui a justement cette capacité à aller au-delà, en fait, de son propre domaine d'expertise. C'est-à-dire qu'en gros, déjà chez ST, il y avait une distinction entre le spécialiste d'une part et l'expert stratège de l'autre part. C'est-à-dire le spécialiste, c'était celui qui était expert vraiment dans son domaine bien particulier. Ouais. Et pour être reconnu en tant que fellow, c'était plutôt expert stratège dans la mesure où on a une capacité à comprendre les enjeux différents domaines d'expertise et justement d'être capable justement de proposer ces concepts-là, les concepts de proto-expertise en fait.
Deuxième chose, c'est que j'avais cru comprendre de STM que c'était une boîte assez bizarre où le management était plus jeune que les gens qui travaillaient sous management. J'ai entendu des bourds. T'as pas observé ça?
Non, alors après, ST c'est une grosse boîte, mais ça m'étonnerait un petit peu quand même. Après, ça dépend parce que c'est vrai qu'il y a les divisions produits, donc plutôt orientées produits. Moi j'étais plutôt dans recherche amont et technologie. En tout cas, dans cette partie-là, j'ai pas observé ça.
D'accord, merci.
Et notamment, en fait, pour revenir aussi, en fait, c'est que la constitution en fait, de ce Technical Staff College va avoir deux conséquences. Premièrement, ils vont revendiquer une stratégie dans l'organisation, c'est-à-dire revendiquer de faire la stratégie scientifique et technique de l'organisation. Donc, après, moi, je reviendrai là-dessus, mais ce qui n'a pas posé quelques problèmes par rapport à la gouvernance classique de l'organisation, de l'entreprise. Et surtout, ils vont mettre en place plein de dispositifs nouveaux dans l'organisation. Premièrement, ils vont créer ce qu'ils appellent le Fast Lab, où en gros, ils vont se dire, en fait, il nous faut un lieu où on puisse se réunir pour aussi discuter de ces projets-là et en fait travailler ensemble sur ces projets-là. Donc, ils vont créer ce Fast Lab, ils vont demander en fait un endroit bien précis dans l'organisation, ça va être pensé près de la cafétéria, etc., pour pouvoir se réunir, et qui est vraiment un espace qui est dédié à l'exploration de ces proto-expertises. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sort de la logique innovation orientée produit, c'est-à-dire que l'enjeu n'est pas du tout de travailler sur des produits, d'applications, etc., mais vraiment orienté sur les expertises, d'accord, sur ces concepts de proto-expertise. La deuxième chose, en fait, c'est qu'ils vont proposer, donc ça, c'est les fellows qui vont piloter ça, ils vont proposer à la communauté des experts, notamment les plus jeunes, de dire, bah, venez, en fait, avec des premiers projets, et en gros, le rôle du fellow, c'est ne pas de dire, on valide ou on valide pas, comme est-ce que tu as raison ou tu n'as pas raison, mais en gros, l'idée, c'est de dire, vous venez avec ce que vous avez, et nous, en tant que fellow, on a pour mission de vous aider à améliorer votre projet. En tout cas, à essayer de faire émerger le potentiel d'innovation qu'on peut avoir dans votre projet. Donc ça, c'est vraiment la mission, c'est d'accompagner en fait la communauté. Ils vont se doter en fait de six différents, ce qu'on va appeler des différentes équipes. Ils vont adopter, alors là, on va retrouver un peu les formes managériales classiques, c'est-à-dire ils vont dire pour tout ce qui est incrémental, c'est-à-dire l'expert, il doit être quand même en mesure de faire des benchmarks techniques, de se positionner par rapport à la concurrence, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'ils disent on doit être aussi en capacité d'innover sur les expertises elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir la création de ce qu'ils appellent le Disruptive Innovation Exploration, où en gros, là, l'idée, c'est vraiment où il y a toute la discussion sur les proto-expertises. Comment les faire émerger, est-ce que c'est intéressant, etc., etc., etc. Et vous avez aussi des équipes support. C'est-à-dire les experts vont dire, mais à partir du moment où je veux explorer certains domaines d'expertise, je vais avoir besoin de certaines ressources, notamment des doctorants, etc. Et donc, du coup, ils vont mettre en place l'ensemble des dispositifs pour être en mesure d'utiliser ces ressources-là, c'est-à-dire notamment les chiffres, les relations avec le laboratoire, etc. Donc, tout un nouveau dispositif. Alors, pour revenir aussi à ce que tu as dit, Vincent, en fait, c'est que ça va aussi changer beaucoup de choses sur l'organisation. C'est-à-dire qu'en gros, les experts aussi, la reconnaissance se faisait par rapport à une grille d'évaluation, c'est-à-dire qu'en gros, celui qui est reconnu comme fellow, il doit être bon dans sa discipline, mais il doit être aussi très bon de façon... avec différents domaines d'expertise. Et en fait, on va rajouter plusieurs choses, c'est-à-dire que ST au début avait une vision quand même très classique de l'expertise, c'est-à-dire l'expert est bon dans son domaine. Et en fait, maintenant, ce qu'on demande aux experts, c'est d'être bon dans son domaine, bon dans plusieurs domaines, et surtout avoir une capacité à générer de nouveaux domaines d'expertise. C'est-à-dire l'expert, c'est celui qui est plutôt expert, alors, si je prends les langages un peu du laboratoire, c'est l'expert pas seulement du connu, en gros, mais aussi d'être capable d'être le futur expert de l'inconnu en train de se concevoir. En tout cas, d'explorer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est que on va donner en fait une fonction managériale à l'expert. C'est-à-dire qu'en gros, dans la charte des experts et dans son évaluation, on dit le fellow, c'est pas celui qui est le référent, c'est celui aussi qui a la capacité à gouverner l'expertise, à gérer l'expertise, à gérer l'évolution de l'expertise. Et donc ça, c'est quand même assez nouveau. C'est-à-dire qu'en gros, l'expert, c'est celui qui est capable de concevoir ces concepts de proto-expertise, de les penser et de les faire émerger dans l'organisation.
Donc là, tu vois le modèle de choquer, en fait. Alors, moins désagréable.
Je vais revenir aussi par la suite, parce que en fait, soit on peut revenir sur le Bell Labs, en fait, se dire en gros que le Bell Labs, on avait déjà une gouvernance type proto-expertise, hein, c'est-à-dire on avait déjà la société proto-épistémique, en fait, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait vraiment une stratégie de recherche pilotée. Ça peut être une hypothèse, mais je vais revenir par la suite, en fait. Et alors, ça c'était la problématique, parce qu'en gros, les experts, j'ai deux slides et je termine. Donc, en gros, ça crée quelque chose d'original dans l'organisation, c'est-à-dire que généralement, quand on parle de gouvernance, c'est plutôt le top management qui pense la stratégie et qui gère l'entreprise. Et là, on voit des experts qui se revendiquent concevoir la stratégie de recherche dans l'organisation. Donc, du coup, première question, en fait, quelle va être la relation entre la stratégie d'entreprise et la stratégie d'émergence d'expertise ? D'autre part, ainsi, ce qui est important, c'est que la société proto-épistémique, elle est à la fois dans l'organisation, en tout cas, elle a été générée dans l'organisation, mais aussi, elle est très ouverte dans le monde extérieur. C'est-à-dire qu'en gros, notamment par la présence des doctorants en CIFRE, les relations avec les laboratoires, etc. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois dans l'organisation, et aussi à l'extérieur, qui est ouverte à l'extérieur. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut se poser comme question, en fait, c'est quoi la performance de ce type de société ? Comment on va mesurer la performance ? Est-ce qu'elle est efficace ? Dans quelle manière ? Donc là aussi, c'est des questions un peu ouvertes, donc du coup, plutôt ouvertes pour la discussion. Et je termine par une slide aussi. Donc, tu as raison, en fait, de revenir un peu sur les Bell Labs, c'est pour ça que j'avais commencé par là, c'est-à-dire, est-ce que, en fait, chez les Bell Labs, on avait un peu ce type de processus-là ? Mais surtout aussi, on a d'autres exemples historiques, en fait. Alors, je pensais à la Lunar Society, qui était on va dire, ces collectifs qui n'échangeaient pas forcément sur ses propres domaines d'expertise, mais qui a la capacité à générer des concepts, ou plus récemment, la Massi Conférence, où là, vous avez exactement ce type de processus, où vous avez des chercheurs de plusieurs disciplines, alors, notamment des mathématiciens, donc il y a Savage, Van Neumann, anthropologie, des sociologues, sur tout ce qui va donner l'émergence, en fait, de la cybernétique, les sciences cognitives et les sciences de l'information. On retrouve aussi, alors là par contre, un petit point, c'est que là on n'est pas dans une organisation, c'est-à-dire qu'en gros on est à l'extérieur de l'organisation, des chercheurs qui sont capables justement de générer. Du coup voilà, c'est quelle est la relation entre une société proto-épistémique dans l'organisation et à l'extérieur. Voilà. Donc ça c'était quelques petites notes pour proposer de commencer la discussion. Merci.